L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour Marie-Claude Siakezak, nous voilà
bonjour
de nouveau
Hélène.
Pour l'Afrique,
oui.
Avec l'Afrique.
Ah bon?
Et aujourd'hui, nous avons réuni, vous avez réuni Marie-Claude, deux intervenants qui sont venus les dernières semaines. Jules Thiobouma, qui est chercheur en hématologie. Nous avons entendu aussi Florence Ouattara, épouse Thio, qui fait partie de l'OST, un organisme pour la santé pour du travail. Elle nous a parlé des conditions de travail dans la mine d'or notamment et des difficultés d'approvisionnement du matériel nécessaire à son travail. Et aujourd'hui, Marie-Claude, vous les avez réunis.
Oui.
Tous les deux.
Oui.
Sur le plateau.
Sur le plateau.
C'est gentil à vous.
Voilà.
Alors, c'est la première fois qu'on reçoit un couple comme ça.
Tout à fait.
Donc, on va poser des questions très couple. Hein.
Oui.
Très, très couple. Alors Florence, vous nous aviez déjà dit avoir rencontré votre mari alors que vous étiez étudiante à Bobo Dioulasso.
Lui
et
moi.
Vous tous les deux, lui était étudiant, vous étiez.
Lui
était
étudiant.
Elle était encore
lycéenne. Oui, lycéenne. Vous étiez toute jeune. C'était en quelle année alors?
91.
Mais vous êtes mariée tout de suite après?
Non, c'est marié 10 ans après.
10 ans après.
Ils ont pris le temps. En Afrique, ils disent qu'ils n'ont pas la montre, ils ont le temps. Donc.
C'est ça. Alors, est-ce que c'était une vie commune avant le mariage ou est-ce que c'était vraiment un temps de fiançailles? Comment ça se passe, ces histoires-là au Burkina, pour vous? Comment ça s'est passé pour vous, ces histoires? Cette histoire d'alliance, finalement?
Je la laisse pas aller.
Florence.
En fait, c'était une vie commune. Après, il y a eu le mariage, concubinage pendant 7 ans.
Ma fille, qui est née en 95.
Qui est née en 95. Et qui s'appelle comment? Leslie Eleonore.
Oui.
Et qui a 24 ans, si j'ai bien compté.
Est-ce que c'était un mariage religieux ou simplement civil? Comment ça se passe? Ou traditionnel? Comment diriez-vous?
C'était les deux. Mariage civil, ensuite religieux, les deux, les mêmes jours.
Mais un peu de dot quand même.
Mais déjà sa fille, je trouve que c'est une belle dot.
Il ne va pas doter, il a dit sa fille. Il y a un mari, on lui donne sa bénédiction.
Ouais.
Il
n'y
a pas de
problème. Ouais.
Lui, son papa avait une esprit assez moderne quand même.
Oui, j'allais le dire, il était vachement moderne ça. Parce que s'il avait embrayé Sankara, il était.
Et vous avez dit quand même malheureusement, vous auriez aimé avoir une dot.
Quand même, les parents sont allés donner, même si c'est un peu de cola, quand même.
Non, mais tu vois, voilà la belle honnêteté des hommes. Ils considèrent ça comme la dot. Je te donne la cola, ça y est.
Voilà. Non, mais après le mariage, le lendemain du mariage, on a fait un mariage traditionnel.
Oui, quand même.
Voilà, simplement.
La tradition, juste avec ce côté-là culturel, esthétique, et pas avec la dot, enfin tout le tintouin, tout le tintouin.
Parce que ça, c'est vraiment spécifique à leur zone.
Oui.
Voilà, chez nous, un peu au niveau du centre, c'est pas tellement développé. Mais là-bas, la femme, elle a un accoutrement. On va l'habiller de curry, la peinture. Avec des lunettes, c'est vraiment un accoutrement spécial. Voilà, mais ça c'est vraiment l'Ouest qui a gardé ses valeurs. Voilà, au centre, après le mariage, généralement on fait le mariage civil, après on fait le mariage religieux après, mais le lendemain c'est fini. Voilà, mais à l'Ouest il y a quand même encore une persistance. Qui est le balafon, voilà, et qui est les gens dansent au balafon, toute la famille est là. Mais ailleurs, c'est pas aussi développé.
Oui, en même temps, les toilettes, les tenues, tout ça, c'est quand même. Nous, ici, il y a des femmes, des filles qui se ruinent pour une robe de mariée, quoi. Alors que là, c'est pas se ruiner, c'est aussi, surtout être dans le respect d'une tradition esthétique, quoi. Dans l'esthétique aussi. C'est vraiment. Oui. Alors moi, ce que je voulais rajouter, pour avoir assisté à pas mal de mariages, c'est que au Burkina Faso, quand on se marie à la mairie, vous me corrigerez si je me trompe, on demande au mari s'il opte pour la mono ou la polygamie. C'est ça, Jules ?
Oui.
Oui, oui, oui. Oui, oui,
si, oui, si, il a,
j'ai entendu.
Il a oublié.
Alors, je dis ça parce que c'est quand même intéressant, parce que ça fait partie de ce que, quand Florence tout à l'heure disait que son père avait embrayé les idées de Thomas Sankara, qui étaient des idées progressistes, je crois que c'est quand même un peu un moment pour que ce soit sanctionné quelque part, et voilà, et que officiellement, l'homme, déjà, est civilement. Alors, religieusement, c'est autre chose. On sait bien que, bon, il y a évidemment la religion chrétienne, déjà, c'est pas autorisé, les chrétiens, mais voilà. Et là, il y a une option, voilà, on opte pour la mono ou polygamie, ce qui fait que quand il y a une transgression à la promesse, on ne fait pas un procès peut-être, mais quand même.
Peut-être qu'on se cache pour se marier à quelque part.
Voilà, ben après
c'est... on est vite rattrapé.
Deuxième et troisième bureau, on connaît.
Pourquoi j'ai voulu le suivre pour
Venise. Prudence.
Voilà, non, mais c'est vrai que c'est... Non, après, c'est sûr qu'on est... La polygamie, on en parle beaucoup. Et on en a parlé l'autre jour, parce qu'il y a une amie camerounaise qui nous a parlé de... Madeleine, qui nous a parlé de la sexualité dans son ethnie, Banen. C'est des Bamoun, des Bamiléké, voilà, une race. Et c'est vrai que quand même, à un moment, les histoires de polygamie ou de monogamie, c'est aussi... Ça dépend des cultures, etc. Hein, alors après, le christianisme a tout aboli, on va avoir une femme, l'élu de Dieu, avec le mari, etc. Mais c'est vrai que ça existe dans de nombreuses cultures, mais je trouve que c'est intéressant quand même que ce soit peut-être officialisé, marqué, même si, comme dit Jules après, des deuxièmes, troisièmes bureaux, on sait qu'il y en a plein. Quoi, hein,
sinon, la société africaine est de nature polygame.
Tout à fait, elle est polygame, voilà. Oui.
Moi, mon papa, c'est même pas l'islam. Mon papa a quatre femmes, c'est, là-bas c'est fréquent.
Non, c'était
on
fréquent.
On a des jeunes de 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont deux femmes. Voilà. Mais dans la société africaine, voilà, la société africaine est normale.
Était polygame. Maintenant, ça perd de son sens. Mais c'était polygame, effectivement, et c'est pas du tout musulman, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Mais en même temps, il y avait une logistique, c'est-à-dire faire beaucoup d'enfants, parce qu'il y avait beaucoup de décès, les femmes mouraient en couche, avoir beaucoup de main-d'œuvre. Enfin, il y avait toute une raison, tout un contingent politique, aussi économique, je veux dire, qui faisait que. Voilà. Et c'est bien de le dire, d'ailleurs, que la polygamie. Mais on l'a voit quand même beaucoup dans des pays à majorité musulmane aussi. Comme quoi, ça entretient quand même un peu ce ferment-là. Quoi. Mais il n'y a rien à en dire de plus, je veux dire. Après tout, il suffit que les règles soient claires au départ et puis après, voilà quoi. Mais quatre femmes, ça veut dire normalement, je les entretiens bien, je les nourris bien, je m'occupe de tous mes enfants.
Chaque femme se débrouille pour nourrir. Et puis l'homme, il est là, il est le pacha. Chaque femme s'est débrouillée.
Ça, bon, c'est une déformation. C'est une déformation.
C'est un peu dommage. Mais c'est les femmes qui... Moi, je suis du milieu agricole. Je voyage beaucoup en milieu rural. Mais la femme, la main-d'œuvre, de façon générale en Afrique, elle est féminine.
Elle est féminine, tout à fait.
Là, c'est la femme qui travaille nettement plus que l'homme. Ça, de façon générale, voilà... C'est la femme qui est la force productive au niveau de l'Afrique.
Le pouvoir économique, il est féminin, hein, même s'il n'a pas, peut-être, si c'est pas dit officiellement, quoi. Hein. Il n'y a qu'à voir comment elles travaillent, même en ville, hein, comment elles font des... Voilà, par exemple, on parlait tout à l'heure, on parlait l'autre jour avec Jules de l'agriculture et tout ça. C'est les femmes qui arrivent avec les légumes qu'elles cultivent dans le petit jardin et qu'elles vendent, etc., etc. C'est elles qui font bouillir la marmite de toute la famille, quoi, hein, au propre et au figuré, quoi.
Et dans beaucoup de zones, surtout à l'ouest, vous partez dans les champs des riz, même en Côte d'Ivoire, toute la zone. Bété, il y a beaucoup de zones où c'est vraiment la femme qui travaille. La force du travail, c'est vraiment la femme. Voilà. Les hommes n'aiment pas trop travailler dans les bas-fonds, dans les rizières. C'est réellement les femmes qui travaillent. Dans beaucoup de zones, au niveau du Burkina, comme souvent au niveau de la Côte d'Ivoire.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer?
Oui, si on arrivait à former beaucoup plus les femmes.
Leur donner de la scolariser, quoi.
Les scolariser, même les former en matière de technique de production.
Tout à fait.
Et en allant améliorer réellement les rendements. Voilà. Malheureusement, lorsqu'il y a des formations à l'endroit des producteurs, généralement, ce n'est pas les femmes qui vont. Mmh. Voilà. Souvent, c'est les hommes. Voilà. Parce que c'est vrai que la femme, avec les enfants, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans des centres de formation. Mais au niveau du pays, on est en train de réfléchir comment rapprocher les formateurs des zones rurales. Voilà. On peut aller les former in situ, dans leur village. Elles n'ont pas besoin de se déplacer. Faire des champs écoles là où elles sont. Parce qu'on sait que dans beaucoup de bas-fonds des écoles, c'est vraiment les femmes qui travaillent.
Mmh. Voilà. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même une vraie réflexion de la part d'institutions, de la part de gouvernements peut-être, pour changer ça.
Oui, il y a des programmes. C'est actuellement même, au niveau du Burkina, par exemple, les femmes deviennent propriétaires terriens. Voilà, parce que dans la tradition, la terre, c'est beaucoup plus l'homme. Voilà, mais actuellement, lorsqu'on fait des aménagements, les femmes ont souvent un quota, minimum 30%, voilà, des terres qui sont attribuées à des femmes. Mmh. Voilà, ce qui fait que quand elles sont propriétaires, elles donnent plus. Voilà, parce qu'on leur donne souvent la terre, un an, deux ans après, on retire. Quand elles commencent à apporter de la matière organique, elles commencent à mieux travailler le sol, on vient souvent les retirer. Mais actuellement, le fait de les rendre propriétaires des terres, en ce moment, ça leur appartient et elles ont le temps d'investir beaucoup plus dans cette terre.
Enfin, nous avons un couple moderne ici quand même devant nous, puisqu'ils travaillent tous les deux. Est-ce que le partage des tâches se fait ou pas? Florence, il faut tout nous dire. Mais c'est pas pour... On n'a pas à juger, hein. C'est juste un témoignage.
Pour être franc, au début, non.
Ouais. Contribuer comment? C'est laver les assiettes, nettoyer la maison.
On partage les tâches. Ouais. Nous deux, on partage les tâches.
On partage les tâches.
Quand il y a les enfants, il ne fait rien. Devant les enfants, il ne fait rien.
C'est les réalités de la modernité, à partir du moment où la femme travaille et reconnue. Parce que là, on vient de dire, Jules vient de nous expliquer que c'est les femmes qui travaillent, et Dieu sait qu'on le voit bien quand on est sur place. Mais là, la réalité, c'est que là, officiellement, il y a quand même deux personnes qui sont salariées, qui ont un métier, qui ont un travail.
C'est ça.
Et donc, voilà. Sauf que quand même, par moment, la figure du père, elle doit rester, non, vis-à-vis des enfants ou bien quoi?
Justement, devant les enfants, il ne va jamais rien faire.
Mais oui.
Et pourtant.
Non.
Alors là, vous êtes en train de nous dire les enfants. On a parlé, on a évoqué seulement votre fille aînée. Donc, il y a donc deux autres enfants qui ont suivi Leslie.
Oui.
C'est ça,
oui. Oui, c'est ça. Et Boupier.
Laurel.
Qui a 16 ans. Qui fait la première A. Et les derniers?
Le Benjamin. On ne dit pas le dernier. Un dernier peut venir après.
Mais c'est vrai.
Ariel Jomaël.
Ariel.
Oui.
Ouais.
Lui, il a 14 ans. Il fait la quatrième.
Alors, vous disiez que les enfants sont à Ouaga.
Oui.
Vous êtes à Bobo.
Exactement.
Pourquoi?
Parce que moi, mon centre de recherche, on était tous à Bobo.
Ouais.
Après, moi, je suis parti à Ouaga. J'ai travaillé au ministère de l'Agriculture 6 ans. À un moment donné, j'ai abandonné la recherche pour aller au développement. Voilà. Donc, j'ai fait 6 ans à l'agriculture en tant que directeur, vulgarisation, protection des végétaux, production des végétaux. Donc, j'ai occupé des postes de responsabilité à Ouaga. Après les 6 ans, je suis revenu encore dans mon ministère d'origine, qui est la recherche.
Et donc, pendant que lui, il était à Ouaga, moi, j'étais à Bobo. J'étais obligé de demander une affectation pour le rejoindre. À Ouaga. Donc, une fois à Ouaga, lui, il est revenu à Bobo. En ce temps, moi, je suis partie à l'école professionnelle et à la sortie, j'ai demandé à le rejoindre à Bobo.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça que ça s'est
passé. Et vous avez laissé les enfants à un seul endroit parce que ça aurait fait beaucoup d'aller-retour, d'aller et venir.
Effectivement. Et l'affectation s'est faite après la rentrée scolaire.
C'est ça.
On n'avait même pas le choix.
Ouais.
On
ne
pouvait rien faire.
Ouais. Mmh. Oui, ce sont les contraintes de la fonction publique.
Oui,
des fonctionnaires. Ouais.
Oui, en même temps, c'est vrai qu'on le voit souvent, puisque bon, Jules, l'autre fois, quand on l'avait reçu tout seul, avant que madame le rejoigne, il nous avait expliqué que lui-même, il était venu de la Côte d'Ivoire et qu'il avait grandi en grande famille. Mais, et moi, j'ai plein d'amis comme ça, qui sont... notamment une amie qui est chercheur et qui m'a expliqué aussi pareil, qu'elle était venue dans la grande famille, où ça ne s'était pas d'ailleurs toujours très bien passé, voilà, mais... C'est vrai que il y a une habitude. C'est ce qui m'a toujours frappé, en tout cas au Burkina, c'est la mobilité des gens, la facilité ici. Dès qu'on parle, dès que quelqu'un va travailler, oh là là, doit partir de la fin. Et chez vous, je veux dire, les gens n'hésitent pas à bouger, quoi.
Non, actuellement la chance, c'est actuellement on a une diaspora ivoirienne qui est très forte au Burkina Faso. Voilà, pratiquement tous ceux qui ont étudié en Côte d'Ivoire. Sont pratiquement presque tous rentrés.
Rentrés, oui.
Voilà. Vous partez à l'université. Actuellement, nos universités sont surpeuplées. On a presque la moitié des étudiants viennent de la diaspora ivoirienne. Mais les parents, généralement, on ne laisse pas les enfants. C'est depuis les années 90, ça fait à peu près 30 ans, tous les enfants burkinabés, tous les élèves, les étudiants, tous rentrent au pays. Donc, quand vous partez à l'université, plus de la moitié des étudiants sont tous nés en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, les parents ont compris que en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus difficile. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la nationalité ivoirienne et ils n'ont pas toutes les facilités déjà pour étudier, même pour avoir du travail. C'est un peu plus difficile.
Il y a quand même une attitude... des Ivoiriens, qui est quand même pas toujours très sympa, il faut dire la vérité, Jules.
Non, en son temps, quand la Côte d'Ivoire, jusque dans les années 90, la Côte d'Ivoire était un pays très florissant.
Oui.
Voilà. Nous, les parents ont vécu là-bas, mais lorsqu'on a, il y a eu les mouvements, le PAS, le programme d'ajustement structurel, les pays ont commencé à avoir des difficultés. C'est en ce moment que les Burkinabés ont compris déjà qu'il fallait envoyer les enfants au pays. Voilà, c'est en ce moment que beaucoup de Burkinabés sont rentrés. Actuellement, la diaspora est très forte. Tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, on les appelle les diasporas. Hein.
Voilà,
toute la fonction publique, c'est pratiquement en moitié, plus de la moitié des fonctionnaires actuellement sont tous nés en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont vraiment contribué à... Oui, développement du pays.
Il y a eu des événements aussi qui ont fait que les gens sont rentrés par moments en urgence. Ouais, moi, j'ai connu, j'ai un ami, il a pu retourner maintenant. Et moi, j'avais rencontré à l'époque deux petites jumelles qui m'avaient abordé dans la rue à Bobo et qui, elles, m'avaient expliqué qu'elles étaient rentrées en urgence parce que leur grand frère de 20 ans avait été tué. C'était des jeunes qui venaient demander à parler à leur père qui avait une propriété en Côte d'Ivoire. Ils étaient en train de construire à Bobo, justement, ces gens-là, pour rentrer parce que ça... Et le père a été tué, et le grand frère a été tué, pardon, et le père les avait vite fait fuir, elles sont enfuies par d'autres pays, et elles étaient rentrées pour ça, et à ce moment-là, il y en a pas mal qui sont rentrées aussi.
Beaucoup de Burkinabés sont rentrées.
De temps en temps, quand ça va mal, de toute façon, il y a un bouc émissaire, et c'est les Burkinabés éventuellement, ou d'autres, parce qu'il y a des Togolais, il y a toutes sortes de gens qui vont servir.
Parce que cela, c'est la diaspora la plus élevée en Côte d'Ivoire.
Oui, c'est vrai.
Le Burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est un million.
Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont de la diaspora. Oui. Bon, donc, pour dire, voilà, nous avons un couple moderne, évolué, qui est aussi dans sa tradition malgré tout, puisque Florence nous a expliqué que malgré tout, même si son père était hyper moderne, elle avait quand même eu le plaisir de faire une partie de cérémonie de mariage traditionnelle, avec la peinture, avec la toilette, avec tout ça. Jules, qui est d'un milieu rural, lui, nous explique bien quand même combien son inscription aussi dans la ruralité qui est quand même importante. Puis de toute façon, la terre, c'est notre lot à tous, si on vit dans des tours modernes. Voilà. Donc nous avons quand même un témoignage là direct d'un couple. C'est notre première.
En couple, oui. C'est notre première. Alors, j'avais aussi une question par rapport aux enfants. Vous avez trois enfants entre le collège et l'université, probablement. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour eux?
La maman d'abord.
La maman d'abord.
Bon, on espère qu'ils fassent des grandes études. parce que de nos jours, sans les études, on ne peut rien faire. Déjà au Burkina, on voit le niveau intellectuel. Les gens font de plus en plus des études. Avoir beaucoup de diplômes et pouvoir avoir des opportunités de travail. Mais réellement, réellement, avant que je ne vienne en France, je me disais que peut-être mes enfants allaient aller à l'extérieur, pratiquement en France pour
étudier.
Pour étudier. Partir à l'étranger, hors du continent africain.
Hors du continent africain pour étudier. D'accord. Mais le fait que je sois venue et que j'ai vu les Africains, leurs conditions de vie, réellement, je vais les dissuader. Je vais dire, c'est mieux de rester chez vous.
Ah,
travailler. Ouais. De toute façon, les diplômes s'équivalent. Il suffit de bien travailler là où tu es. Voilà. On va mettre les moyens pour qu'ils puissent rester au Burkina et puis travailler et faire les études au Burkina. Maintenant, les études et la licence, ils veulent faire des masters et qu'ils ont des opportunités pour sortir là.
D'accord.
Ils peuvent sortir.
Au niveau du master.
Voilà.
Avec des objectifs plus précis,
plus
quoi.
Plus précis. Aller bosser et puis revenir.
Non, je suis d'accord avec elle.
Bon, tout va bien.
Parce que déjà, quand un enfant a 18 ans, 19 ans, quand il quitte son pays, il quitte ses parents, et qu'il vienne à 18, 19 ans, l'enfant n'est pas encore mieux. Voilà. Souvent, on les voit, bon, si le milieu dans lequel il est, le milieu n'est pas très bien, l'enfant peut un peu déraper, et puis bon, on ne sait pas ce que ça donne. On les voit, moi, c'est ma première fois de venir à Montpellier aussi, mais lorsqu'on regarde dans la rue, on sent... souvent, si les parents n'ont pas réellement les moyens pour bien s'occuper de leurs enfants, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas aussi facile comme en Afrique. Voilà, en Afrique, on a certaines facilités pour les logements, pour la nourriture. Ici, ce n'est pas évident. Mais comme elle a dit, lorsque l'enfant a un niveau un peu après la licence, peut-être il veut faire un master, il veut faire une thèse, ça, c'est beaucoup plus facile. En ce moment, il est mûr d'esprit et il sait ce qu'il veut. Voilà, même quand il va à l'extérieur, il sait ce qu'il veut. Et ce qu'on a apprécié ici, ça on l'a noté, Montpellier c'est vraiment une ville universitaire. Il y a beaucoup, j'ai eu des informations sur la santé humaine, c'est une des grandes villes en matière d'université.
Médecine.
Médecine, oui.
Tout la recherche agro aussi.
Effectivement. Ah
oui. Agropolis, ouais. C'est fabuleux.
Agropolis,
quoi.
Effectivement. Donc, c'est vrai qu'ici, on a beaucoup plus d'opportunités, on a beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus de... La formation est peut-être à un niveau supérieur, nettement par rapport à notre pays. Mais il faut que l'enfant ait un certain âge et qu'il soit suffisamment mûr pour comprendre. Voilà. Sinon, on peut avoir des déchets à la fin.
Ouais.
L'enfant, ce qu'on voit souvent, c'est dommage. Mais c'est un peu ça.
Est-ce qu'ils s'orientent d'ores et déjà vers la santé des plantes ou la santé des humains?
Bonne question.
Non, la première qui a fini une licence en technologie biomédicale déjà.
Déjà, d'accord.
Non, elle a déjà une licence. Elle est en train de voir, peut-être continuer un master et puis plus tard.
Ouais.
La deuxième, elle avait fait beaucoup plus lettres.
Lettres.
Voilà. Mais le Benjamin, il est à l'internat, il est chez les sœurs. Mais lui, on est en train de voir. Souvent, c'est les mamans qui les enfants suivent. peut-être beaucoup plus élever la santé. Peut-être que l'enfant devienne médecin.
Oui, il faut vraiment que ce soit son truc aussi. Parce que des fois, on n'est pas fait pour ça non plus.
Effectivement.
Peut-être que ce sera la terre, l'agriculture ou quelque chose comme ça. C'est pas mal aussi. Hein,
non, j'ai bien apprécié. Lorsqu'on voyageait, j'ai vu tout le long de la voie en allant à Toulouse. J'ai vu des champs à gauche, à droite. Mais à mon avis, je trouvais ça très bien. Voilà, parce que le monde rural doit demeurer. C'est la terre qui nourrit les hommes. Et lorsqu'on commence à perdre pratiquement toute cette terre pour faire des industries, des usines, on perd en termes de diversité biologique, on perd tout. Mais la France, quand même, j'ai bien apprécié. Quand je vois les champs de vigne, j'étais vraiment curieux. Je voyais les champs de vigne à perte de vue, le maïs. Je ne savais pas qu'on faisait le maïs ici. Le sorgho.
On a du riz aussi, pas loin, en Camargue.
Ouais, en Camargue, oui. Donc, c'est pour dire, le monde rural, c'est le monde à vraiment soutenir.
Bien.
Il faut vraiment soutenir.
Voilà, la santé, le rural,
oui,
l'humain, quoi.
Voilà, l'humain.
L'humain depuis la base.
Alors, Jules Thiobouma et Florence Ouattara, épouse
Thio,
vous nous avez aussi apporté votre choix musical commun. Alors, de quoi s'agit-il?
Non, bon, ça c'est moi. Je vais plus la laisser parler, mais comme elle a fait son choix, elle a fait le deuxième choix, moi je vais faire ce choix.
Bon.
C'est pour dire un peu, c'est une musique qui vient un peu de la zone de Pau, de Tiébélé. Je ne sais pas si vous connaissez Tiébélé.
Tiébélé.
Voilà, c'est la zone où on a les dessins très magnifiques sur les cases.
Sur les cases, voilà, les fameuses les cases peintes.
Voilà, donc c'est du Cassena. C'est vraiment une musique du terroir de Pau.
C'est le nord, vraiment le nord, la zone sahélienne.
Donc c'est la zone où on a les dessins sur les murs. On entend même de tout faire pour que ça rentre un peu dans le patrimoine de l'UNESCO, parce que c'est très beau. Au Burkina, c'est une zone à visiter.
C'est
vraiment
très magnifique.
Très beau à préserver.
Voilà. Ouais, donc, beau à préserver. Et ça, c'est les femmes qui dessinent.
Voilà. Et donc, la chanson.
C'est les phrases sur les murs, mais c'est extrêmement beau.
Oui, c'est les femmes qui font ça. Et alors, la chanson, c'est.
C'est une chanson de Djata. Malheureusement, c'était une des très grandes vedettes de cette zone. Elle est décédée il y a quelques années.
Par accident.
Mais sa musique demeure. Voilà. Et ça, elle a une voix très forte. Elle a dansé avec Moussou Nyuma Kouyaté. Voilà. Qui était une des grandes chanteuses et danseuses.
D'accord.
De Bobo.
De Bobo.
Voilà.
De Bobo en plus.
De Bobo qui avait la fondation Wamde. À Ouaga, il y avait le centre Wamde.
Wamde, oui.
Voilà. Voilà. Donc, elle a vécu avec Moussou Nyuma Kouyaté.
Kouyaté. Voilà.
Mais une très belle voix.
Grande famille, les Kouyaté.
Une grande famille, effectivement, les Kouyaté.
Oui. Bon, en tout cas, merci de votre témoignage à tous les deux. Hein,
parce que merci.
On a appris des choses aujourd'hui
beaucoup de choses,
avec monsieur et madame Thiou.
Merci à vous, Marie-Claude, de nous faire partager vos rencontres montpelliéraines en provenance de l'Afrique. On se revoit bientôt.
On se revoit bientôt, j'espère, hein, parce que ça me manque. Hein. Voilà. Et puis, alors, on rappelle à nos auditeurs qu'on peut voir, on peut réécouter les émissions en podcast sur le site
radiofmplus.org.
Voilà, vous avez bien entendu.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Et merci beaucoup. Et bon retour au pays à tous les deux.
Merci.
Can't win nobody. I be your side, you're not giving. You can't win nobody. I be your side, you're not giving. You can't win nobody. I be your side, you're not giving. You can't win nobody. I be your side, you're not giving. You can't win nobody. désiré.